le prévoit la loi. La disposition, l'amende, pour ceux qui n'assument pas, comme le prévoit la loi, l'amende, qui n'assument pas leur autorité, comme le prévoit l'amende, qui n'assument pas parentale. Il faut instaurer cette pratique. Rappelons la loi, la disposition, l'amende pour ceux qui n'assument pas. La loi chargée de faire respecter la loi. Les dispositions qui sont à appliquer, qui n'assument pas. Frapper au porte-monnaie, responsabiliser, il y a les bons et les méchants, et les bons porte-monnaie pour ceux qui n'assument pas, il ne faut pas cliver. Chut. Mesdames et messieurs, chut. On n'était pas là quand vous les avez fait. Chut. Il y a un souci dans ce pays. Chut. Taisez-vous. Laissez-moi parler. On envoie un message aux parents. Laissez-moi parler. Laissez-le parler. Chut. On envoie un message. La République est là. Aux parents dans ce pays. Un souci. Et je ne suis pas pour l'assistanat. Vivez votre vie. Dans ce pays. La vie. La vraie. Chut. Chez certains jeunes. Pour l'assistanat, je ne suis pas. Pas tous. Chez certains jeunes. Pour l'assistanat. Pas tous les jeunes. Taisez-vous. Tous ne sont pas tous les jeunes. Chut. Faut pas les prendre pour des idiots. Chez certains idiots. Tous ne sont pas des. Taisez-vous. Hystérie collective. On va aller à la catastrophe. Enfin, de l'immigration, de la catastrophe, de l'hystérie collective, il y a un souci dans ce pays. Taisez-vous. Il ne faut pas instrumentaliser. Ils utilisent le discours de papa-maman. Chut ! Le discours de papa. Taisez-vous. Le discours de maman. Le discours de papa-maman devant la télé. Chut ! Et ils vont nous succéder. Le discours de la télé, de papa-maman. Il faut rappeler qu'il y a des règles. On rappelle papa-maman. Il y a des règles devant la télé avec papa-maman. Et ils vont nous succéder. À tous les niveaux, il y a des règles. Du simple citoyen au président, il y a des règles. Il y a aussi des parents. Les parents du président. Face à des situations, il y a des parents qui souhaitent qu'on les aide. À tous les niveaux de la discrimination, taisez-vous. Laissez-moi parler. Chut. Effort supplémentaire. Faut mettre le paquet. Chut. Crise sociale énorme, faut mettre le paquet. Impossibilité de pouvoir vivre. On déplie le matelas, on baisse les aides. C'est ça la réalité. On déplie le matelas, c'est ça la réalité. Faut pas abuser l'opinion. Il y a des règles. La loi est là pour faire respecter la loi des amendes, des parents qui n'assument pas. On déplie le matelas, c'est ça la réalité. La France offre des chances exceptionnelles. La redevance télé. Faut mettre les pieds dans le plat. Jouer au loto, faut mettre le paquet. Personne ne nie les réalités. La redevance télé, il y aura des sanctions. Un accompagnement personnalisé. Jouer au loto, il y aura des sanctions. Pour chaque famille française, les pieds dans le plat. Chut, attendez, chut. Aujourd'hui, chaque famille française a 5, chut, attendez. Chaque famille française a 5 inter, chut, taisez-vous. Famille française a 5, chut, interlocuteurs des acteurs publics, des fonds privés, faire preuve d'autorité, chut, premier point, taisez-vous, chut. La ghettoisation. Comme aux États-Unis. Ok, vous avez des enfants, ok, on va s'en occuper. Comme aux États-Unis. Si vous faites preuve de mauvaise volonté, on va s'occuper de vous, comme aux États-Unis. Ok, les idées simplistes, moi je suis pas pour l'assistanat. Ok, les idées simplistes, les repères sont partis. Ok, maintien d'état d'urgence. Vous avez des enfants, comme aux États-Unis. La ghettoisation, les repères sont partis, comme aux États-Unis. Vous avez des enfants, rassurez-vous, maintien d'état d'urgence. Les États-Unis nous regardent. Chut. On va les obliger à réfléchir. Rapport de confrontation ethnique, attendez. On se raconte des salades. Le reportage sur place du taisez-vous, francophobie, taisez-vous. Un fonds de commerce au vitriol. Il n'y a pas que l'administration américaine qui soit nue. Chut. On se raconte des salades. L'ascenseur social dans les logements ne fonctionne pas. On se raconte des salades. Et je ne parle pas de ceux qui mettent le feu dans l'ascenseur. On se raconte des salades. Le logement, l'ascenseur social des logements, l'ascenseur des familles, de la milice, du quartier, de l'ascenseur du niveau de déliquescence ne marche pas. Il y a un souci dans ce pays. Désespérados et nihilistes. Pour moi, c'est pas un débat. Plus ou moins un débat. Un pacte de non-agression. Désespérado et nihiliste. On ne peut pas être dans une situation de faux fuyant. Il ne s'agit pas d'être plus ou moins à gauche. Désespérado et nihiliste. Nous sommes à un niveau de déliquescence. Plus ou moins à gauche, toutes. Pour moi, ce n'est pas un débat. Plus ou moins un débat. Un pacte de non-agression. On a un arsenal juridique. 3 mois de mesures exceptionnelles. Plus ou moins nihiliste, il faut donner racine. Au chevet des banlieues, avec des matelas Bultex, Dunlopillo. Regardez. Les messages ont été parfaitement clairs. Avec Dunlopillo. Et les matelas Bultex. L'ascenseur social ne fonctionne pas. Je m'excuse, mais je ne marche pas. Je m'étonne moi-même. Je n'ai fait que vous écouter. Je veux dire aux enfants, des fils et des filles de la République, 3 mois de couvre-feu, et je m'étonne moi-même. Aux enfants des quartiers d'origine, les fils et les filles, laissez-moi parler. Nous ne construirons rien de durable. Chut, taisez-vous. 3 mois de couvre-feu. Et nous ne construirons rien, fils et fils de la République, de durable. Nous ne construirons rien.
Fils et fils, enfants des quartiers, de durable, d'origine, nous ne construirons rien. Des quartiers, de la République. Fils et fils, 3 mois de couvre-feu, rien. Nous ne construirons rien de couvre-feu, de durable.
Je vais vous parler à mon tour d'une irruption dans un banquet. Une irruption qui est aussi une scène de ménage et qui a pour nom un Alcibiade, qui est un personnage historique. Platon en raconte l'arrivée ivre-mort, poussant des hurlements, accompagné pourtant d'une joueuse de flûte lors de la fin d'un banquet où on faisait un éloge des choses érotiques. Et Alcibiade, je vous en fais le récit ici parce qu'il est possible qu'il soit un exemple de passage, d'instabilité, un shifter, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose de si fragile qu'on a cru qu'il était définitivement perdu dans l'amour de Socrate. Alcibiade, lorsqu'il fait irruption dans cette scène du banquet de Platon, fait le récit de sa propre blessure, et une blessure qui nous apparaît à nous comme narcissique. Il est beau, il est riche, il est intelligent, acclamé par le peuple d'Athènes, couvert d'honneur, et malheureusement pour lui, il rencontre Socrate. Le discours philosophique, un autre chant de flûte, un autre type de discours qui le charme, un discours tellement autre et tellement surplombant qui prétend mieux connaître une vraie voie de subjectivation, une subjectivation appropriée pour essayer de lui montrer, à lui, Alcibiade, comment il doit vivre de manière vraie et bonne et vertueuse. Alcibiade dit qu'il est mordu comme par une vipère, et souffre au contact de Socrate, qui lui fait honte à chaque fois qu'il le voit. Il lui fait honte de vivre comme il vit, sans se soucier de lui-même, en se perdant dans l'amour qu'il porte au peuple d'Athènes. On expérimente tous ce genre de rencontre humaine, qui alimente un décalage entre ce que je suis et des aspirations fantasmées à être tel ou tel qu'on voudrait être ou se présenter face à cette personne rencontrée et qui suscite l'amour. L'Alcibiade, qu'on connaissait si épanoui, expérimente donc ce décalage narcissique et dit, à la fin de son éloge, hésiter entre deux modes de vie antithétiques, deux modes de subjectivation inégaux, asymétriques, de valeurs tellement distinctes qu'il n'ose pas faire l'apologie de la vie pourtant qu'il a toujours menée, sauf lorsqu'il a rencontré Socrate. Alors il vit ces deux vies, l'une avec Socrate, par moments, par bribes, où il a honte de ses actions passées, et une autre avec ses vieux amours politiques, il mourra avec, criblé de flèches. L'histoire pourrait s'arrêter là, et Alcibiade, selon nous, pourrait être ce personnage qui sait parfaitement compartimenter des niveaux, des strates de vie bien distinctes, bien étanches même. Sa vie professionnelle, sa vie sociale, sa vie sexuelle, sa vie intellectuelle. Et alors, on a vite fait d'accuser Alcibiade de n'être ni entier, ni cohérent. Il dit lui-même, et on a entendu ce mot tout à l'heure, qu'il fuit, qu'il s'exile lorsqu'il s'échappe du territoire de Socrate. Le personnage, alors, s'il menait des vies si distinctes, ne serait pas du tout intéressant pour lui-même. Et c'est ce que Lacan y a vu lorsqu'il s'est intéressé au personnage d'Alcibiade. Ce qui est inintéressant dans Alcibiade, c'est justement son incohérence, et c'est ce qui montre l'intérêt de Socrate, cette fois. Socrate comme analyste qui va révéler à Alcibiade l'étrangeté de son désir. Alcibiade a halluciné un objet de désir, c'est Socrate. Il s'en dit amoureux. Cet objet de désir, il s'appelle Agalma. C'est une petite statuette cachée à l'intérieur d'un moi et qui serait la vérité de mon propre désir. Cet Agalma, il cristallise, il fixe le désir, son mouvement. Socrate a su qu'en contrariant les avances du jeune homme pour coucher avec lui, il a su qu'il allait révéler le désir d'Alcibiade, ce désir s'adressant à un autre, à une autre convive, dans la scène du banquet, en l'occurrence Agathon, un personnage aussi insignifiant. De cette histoire, on pourrait retenir qu'Alcibiade est ce personnage que Socrate, par son chant, par sa voix de flûtiste, flutio, il y a ce mot dans le banquet, Socrate a parvenu à alerter, par transfert, Alcibiade vers une voie plus stable de l'unification de son désir, même s'il a buté vers l'irreprésentable. Alors, Alcibiade est-il vraiment le récit d'un échec de subjectivation ? Alcibiade, aimé de Socrate, qui est devenu son amant, malheureux, aspire maintenant à détruire Socrate. Et si finalement ce n'était pas un échec ? Et si, en vérité, Alcibiade s'était inventé, à l'approche de Socrate, un territoire nouveau de subjectivation ? Alcibiade est un personnage tragicomique. Il est saoul, je l'ai dit tout à l'heure, il hurle, il fait rire à ses dépens et déclare à tous pourtant sa vulnérabilité dans la relation érotique manquée qu'il a avec Socrate. Peut-être, mais Alcibiade en tout cas a su la mettre en scène. Il fait une scène à Socrate et joue très bien à ce jeu scénique. On sait qu'Alcibiade, par ailleurs, aimait se travestir. Il aimait, dans la relation érotique, les jeux de substitution entre aimé et amant. Il devient aimant. C'est peut-être dans ce jeu-là, entre homme et femme, aimé et amant, qu'il excelle et qu'il va se découvrir une subjectivité qui ne vise certainement pas l'unification de son désir, mais au contraire, va s'amuser à l'éclater entre différents objets, la gauche, la droite, Socrate, Agathon, le peuple d'Athènes. Qu'il en souffre, finalement, n'est jamais qu'une supposition de notre part. Et le refus par Socrate d'accéder à ses avances ne rend jamais pour Alcibiade que le jeu plus piquant. En fait, Alcibiade a mis au défi le discours philosophique traditionnel dans sa prétention à nous faire accéder à la vérité d'un désir, quel qu'il soit. Et Alcibiade incarne une tentative de subjectivation dans un jeu de décalage, des antithèses qui, en réalité, sont un peu stériles, entre vie philosophique, vie mondaine, amour réciproque, amour narcissique, amour intellectuel, entre un sujet défini par sa sexualité ou une sexualité au contraire insignifiante. Alcibiade est une figure, au contraire, qui va inventer une philosophie peut-être platonicienne pour mieux situer un rôle décalé. Pourquoi ne pas considérer, finalement, que là est aussi son lieu à la philosophie.
Là, tu as exhibé un vrai shift, c'est celui de l'Eros et de l'Eroménon. C'est fort curieux, je n'attendais pas ça ici. Mais d'accord. Excellent. Un shift électronique.
Bravo, elle s'y plaît. discuter, se raconter des choses et... Ah oui, c'est celui-là. Hein. Anne, ah, est-ce que tu peux raccorder ces éparses?
Vous tirez de ce mauvais pas?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, on est bien dans une série à la fois disparate et quand même... nous l'avons fabriqué.
Alcibiade est beau, elle pense qu'il a la plante des pieds extrêmement douce. Et ça fait assez longtemps qu'il traîne parmi nous. C'est pas inintéressant aussi de voir de vieilles divinités grecques un peu fripées et qui n'ont pas cessé d'être jeunes depuis très longtemps et qui viennent parmi nous combattre. Il y a une autre chose intéressante, puisque Olivier évoquait un drapé de mots qui est aussi un tissage de paroles, un peu comme ici, puisqu'il parlait de ce livre qui s'appelle Le Banquet, et il y a des entrecroisements un peu aussi avec des pauses et entrecoupées de silence, et puis avec des vitesses et des rythmes différents. Donc dans un texte qui, dans notre mémoire un peu érudite et très ancien, on voit des nappes de viscosité différentes qui s'entrecroisent aussi quand on essaye de porter la langue à un niveau de concentration, de teneur théorique ou philosophique. C'est intéressant de voir que, y compris du côté du concept, il faut qu'il y ait des franges sensibles et que ces franges sensibles soient discordantes et décalées. Je sais bien qu'il y a d'autres textes qui se présentent comme des grammaires impeccables, mais ça ne change rien au fait que quand on les reçoit et qu'on les mentalise, on les prend aussi sous cette forme fragmentaire et virulente dont on parlait tout à l'heure. Ce que tu disais, Thierry, sur l'improvisation, je trouvais ça très touchant et très fort, parce qu'il y a ce montage. Alors, quand ça réussit, c'est là que ça rate, parce qu'on s'installe dans une redondance qui risque de se stabiliser, alors que nos moments de réussite, on ne les voit que rétrospectivement, à un moment où en fait on s'intéresse à l'effet qui a produit cette sorte de déséquilibre qui fait que brusquement il y a une zone d'intérêt qui pointe. Ça, c'est ça, philosophie aussi bien qu'en musique ou dans le tissage de paroles trop plein d'humour. On n'a pas osé rire autant qu'on voulait, puis certains d'entre nous tous, mais on riait intérieurement très fort. Alors c'est pas du tout sûr qu'on y arrive ici, et justement, pour exactement ce que tu as dit précisément. C'est-à-dire que il ne faut pas non plus se camper dans la position trop facile de dire qu'on est au bord du risque de l'équilibre, que par conséquent on a le droit de tâtonner dans le noir sans savoir où on va. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a aussi un petit moment peut-être où la parole circule, où elle circule entre nous, et c'est peut-être le bon moment pour faire ça. Et c'est là que je cherche le regard, quelqu'un qui aurait envie de parler. Anne, par exemple?
Non.
En fait, il faut se taire, il
faut accepter de se taire un tout petit peu. Et puis on tend le micro, et puis on attend.
Cyprien.
Dans le film Matrix, il y a un des personnages qui s'appelle Shifter. Et c'est lui qui joue en fait le rôle de traître. Il bascule à un moment donné du monde réel. Il s'est reconnecté pour rejouir les bienfaits de la vie, manger de la vraie viande, boire du bon vin, etc. Même si en fait c'est en rêve, enfin dans son sommeil. Il s'appelle Shifter, il trahit en fait, il bascule dans un camp. Depuis tout à l'heure, je ne comprends pas quoi. Je pense que c'est pas innocent qu'il ait nommé ce personnage qui était dual, qui a à un moment donné basculé dans l'autre camp.
Non, mais c'est tout à fait.
Et son nom, c'est Shifter.
C'est vrai que c'est peut-être disons que. Et elle a basculé entre deux choses, je crois que c'est toi qui as basculé entre deux états qui sont très. D'une certaine manière repérée, qui sont déjà un peu présents. Et puis il y a cette histoire de vitesse, de lancer, qui peut s'aventurer sur de la connexion qui dérive, enfin, qui part, voilà, qui part entre deux termes, mais qui. Le temps en fait avance. Ceci dit, c'est moins dualiste, quoi.
Mais, bah, moi, j'ai présenté de manière dualiste, mais c'est pour te dire qu'à un moment donné, voilà.
Mais c'est toute la problématique, quand même, effectivement, des ritournelles et des différences de potentiel et d'inventivité en fait qui se met en jeu suivant la façon dont le shift, c'est des grands mots, mais en même temps c'est bien de pouvoir parler de ces choses qui sont que l'on connaît, que l'on a repéré, et en même temps que ça puisse passer à un niveau de pensée, de théorie, de choses sur lesquelles on peut étayer. Je crois que c'est important, même si ces mots à chaque fois nous paraissent peut-être un petit peu abstraits. Et donc le mot ritournellisation, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit encore un mot qui est un peu long, qui a une certaine longueur. Et en même temps, je trouve ça assez, assez surprenant aussi de proliférer finalement de manière très. À la fois répété et avec des variantes jusqu'à édifier, jusqu'à construire un principe dans lequel en fait ces variantes sont très intéressantes à être étudiées. C'est ça, c'est plus on lit sur la ritournelle, plus on s'aperçoit que la ritournelle, non seulement c'est pas quelque chose de simple, mais en plus c'est quelque chose de très joyeux, c'est-à-dire c'est quelque chose de très. À multiples facettes. Je sais pas. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a vraiment beaucoup.
Guattari, en fait, il faisait du slam quand il écrivait. Hein ? La ritournellisée qui a l'idée d'écrire ça. Il y a beaucoup trop de syllabes. Et déterritorialisé. Voilà.
Tu nous parles de quelque chose.
Non, je ne sens pas. Mon sentiment, c'est que quand
veux dire partir de la clinique. Oui.
Oui, enfin, ça me semble une rassure. Enfin, moi, je le sens comme une espèce de. Oui, de pas, simple, enfin, pas simplement une rationalisation de la clinique, mais plutôt enfin, une espèce de vademécum pour lire, entendre, écouter, interpréter. Pareil, il ne faut pas interpréter, mais enfin, travailler avec ce que racontent des gens qui ne fabriquent pas de shifter consciemment, mais en fabriquent sans arrêt.
Ça change rigoureusement rien parce que.
Ben si, ça change parce que là, tu s'est présenté comme une pratique consciente et organisée. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi, mais quand même.
Ah bah ben non, regarde, Thierry a bien dit que ça n'était pas.
Là, c'est déjà une décision de faire quelque chose. Bon, même si tu ne sais pas comment tu vas le faire, etc. C'est pas la même posture que quelqu'un qui improvise en effet sa vie dans un milieu en résonance avec ce qui se passe autour de lui, mais qui n'a pas décidé d'improviser et qui même est comme. Je n'ai pas très bien compris, mais je connais mal la Sylvia du banquier et tout ça. Mais enfin, j'ai l'impression que le type, il n'est pas complètement heureux dans cette archiversation.
Moi, j'avais envie de dire tout à l'heure, en réaction par rapport à la performance, des fois quand ça rate, etc. etc. Et je me suis vu une expérience comme ça qui n'était pas préméditée de performance, où j'avais envie de dire, c'est un moment de grâce. C'est quelque chose qui. Voilà, c'est. Et on le sentait en fait en même temps que ça se passait, que c'était un moment de grâce et c'était formidable. Enfin, c'était pas du tout prémédité de faire une lecture de deux bouquins complètement qui n'avaient rien à voir avec bon, un ami qui lisait un extrait, bon moi j'enchaînais, etc. Et ceux qui écoutaient, enfin bon, il y avait quelque chose qui s'est passé, qu'importait à la limite le texte, mais c'était une espèce de musicalité des sons, des voix, des intonations qui faisait que ça faisait raccord des choses. On avait rencontré des choses qui n'avaient rien à voir. Donc c'était un accident heureux, je dirais. Et c'était du bonheur. Voilà, il y avait un moment de voilà. Et ça, alors je ne sais pas si on a shifté entre deux textes, des choses comme ça, etc. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui s'est fait dans le cadre d'une improvisation pas préméditée, qui est venue comme ça, parce que les objets étaient là, qu'on les a pris, qu'on a fait quelque chose à un moment donné. Et j'avais envie de dire, moi, c'est un moment de grâce. Voilà. Un exemple clinique.
Il y a une histoire de Kleist qui s'appelle le théâtre des marionnettes. Alors, cette histoire, je ne m'en souviens pas très bien, mais peu importe. C'est l'histoire de quelqu'un, ami, qui est danseur, ou qui rencontre un danseur dans une petite ville en Allemagne, avec des perruques et des calèches. Du 19e siècle. Et ce danseur, dans cette petite ville, voit un marchand ambulant et un petit théâtre avec un petit théâtre des marionnettes. Alors il s'approche fasciné et quelqu'un dans la foule le reconnaît. C'est vous le danseur qui allait danser, etc. à l'opéra. L'autre lui dit je suis occupé à regarder les marionnettes. Alors le premier lui dit mais vous êtes danseur les marionnettes. Ça peut vous faire. Et le danseur répond, écoutez, les marionnettes, il n'y a rien de plus important pour un danseur, parce que d'abord, elles sont suspendues par la tête. Alors, c'est ça que. Ça, c'est le problème de tout danseur, hein, d'arriver à échapper à la gravité. Alors, les marionnettes y arrivent très bien. Puis l'autre chose qui est vraiment importante pour un danseur chez les marionnettes, c'est que comme elles ont des segments de membres rigides, elles peuvent les tourner parfaitement. Et donc, regardez par exemple là,
son arme est dans son coude. Alors ça, c'est la première histoire. Puis l'autre histoire, c'est qu'après, il se retrouve dans un autre château, où il est question de quelqu'un, c'est en rapport avec ton état de grâce, il est question de quelqu'un qui va apprendre à faire de l'épée, c'est moi qui fais de là, faire de l'épée, à devenir un excellent homme d'épée, ou femme d'épée. Et... et on lui dit, ce qui compte, c'est un ours. Parce qu'un ours est extrêmement rapide, et beaucoup plus rapide que n'importe quel dueliste, pour être capable de parer et de riposter à l'épée. Et alors, on se dit, mais quelle est la morale de cette histoire? L'ours d'un côté, meilleur homme d'épée que celui qui voulait apprendre à devenir une fine lame, et la marionnette, meilleur danseur que le danseur. Et la réponse, elle est dans cet état de grâce. Et la marionnette en bois n'a pas besoin de se préoccuper, mais la façon qu'on va de le faire, elle tourne. Et l'ours, il part avant même de songer à parer. Donc ça ne veut pas dire non plus que l'inconscience est la seule vertu, parce qu'autrement, il suffirait de s'endormir comme des crapauds. Dans la ville, ils prétendent qu'ils peuvent rester presque des milliers d'années sous la vase. Mais cette inconscience-là, de temps en temps, quand on réussit à la faire vibrer à l'intérieur de nos motifs conscients, ben, il se passe quelque chose qui n'a plus rien à voir avec nous.
Thank you. Pascal, qui s'appelle Pli.
Et justement, il y avait l'histoire du geste des marionnettes de Clarisse qui était en jeu. Entre autres. Ouais. Aussi le geste de l'effraction de Nathalie Sarraute, le geste qui raconte que quand elle est petite, elle vit avec son père et sa mère répond pas à ses lettres, sa mère qui est en Russie répond pas à ses lettres, et un jour elle sait pas pourquoi, elle est derrière un fauteuil, il y a son père, enfin il y a les adultes comme ça, et tout d'un coup elle a pris un couteau et elle a déchiré l'arrière du fauteuil. Et on sent que c'est un geste inaugural pour elle, et qu'après elle nomme la répétition dans ce qu'elle écrit, c'est ce geste-là qui fait une ritournelle qui s'évade.